Le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer les besoins ponctuels de trésorerie ou l'acquisition de biens d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions sur le voyage d'Alpha Condé en Turquie. Depuis samedi, l'ex-président guinéen est sur place pour des soins médicaux. La junte a donné son feu vert, invoquant des raisons humanitaires. Seulement voilà, Alpha Condé fait l'objet de poursuites judiciaires, notamment pour des faits présumés d'assassinat. La coalition FNDC, qui est à l'origine de cette plainte, soupçonne les autorités de la transition de s'être immiscées dans cette affaire en autorisant ce déplacement sans passer par le procureur général, donc en contournant la justice. Le FNDC craint donc que ce voyage soit finalement un prétexte pour permettre à Alpha Condé d'échapper à un éventuel procès. Alors partagez-vous cette inquiétude? La polémique est-elle justifiée? On va en parler ce matin. Vos réactions sont nombreuses et elles nous intéressent évidemment comme tous les jours. 33 9 693 693 70 et je vous attends sur nos réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Pour l'instant, ce sont vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe, vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information. On vous répond en direct tous les jours à cette heure-ci. On va commencer en parlant football. On est à 48 heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez.
À Port-Gentil, au Gabon, soyez le bienvenu.
Merci Juan Gomez.
On vous écoute.
Oui, Juan Gomez, je voulais... La finale opposera Liverpool au Real de Madrid, au Stade de France. Jürgen Klopp peut-il, cette fois, amener Liverpool jusqu'à la victoire après leur défaite à Manchester City pour le titre de la Premier League?
Oui. Alors, c'est vrai que Liverpool a terminé à la deuxième place du championnat d'Angleterre. Ça s'est joué vraiment à un petit point. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Juan, bonjour Patrick.
Journaliste au service des sports de RFI. Vous aurez le privilège, mon cher Cédric, d'être samedi soir au Stade de France pour nous faire vivre en direct la finale de la Ligue des Champions. Quelles sont les chances de Liverpool? Est-ce que Jürgen Klopp peut, cette fois, conduire Liverpool jusqu'à la victoire?
Mais évidemment qu'il peut. Alors, je ne vais pas rassurer Patrick, hein, puisqu'on sait que
Patrick
est un supporter du Real.
Du Real Madrid, vous confirmez Patrick?
Oui, exactement Juan, exactement, c'est un grand supporter du Real.
Bon, Cédric Oliveira.
Je vais me faire un peu l'avocat de Jürgen Klopp. C'est quand même quelqu'un qui a remporté deux titres cette saison. Alors certes, il n'a pas gagné la Première Ligue, mais il y a eu la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue anglaise, à chaque fois au tir au but, à chaque fois contre Chelsea, qui n'est pas n'importe quelle équipe non plus. Ça veut dire qu'il maîtrise les matchs couperets, et cette finale de Ligue des Champions en sera un. Jürgen Klopp, qui a déjà gagné la compétition, c'était en 2019 face à Tottenham en finale, avec quasiment la même équipe alignée samedi face au Real. Donc il a une connaissance parfaite de son groupe. Et puis on parlait de cette Première Ligue de cette saison. Faut dire qu'il a échoué à un point de Manchester City, autre club exceptionnel, autre manager exceptionnel, Pep Guardiola. Alors Liverpool reste quand même une énorme équipe avec un manager qui est capable en tout cas de tirer la quintessence de son groupe. Tout le monde est persuadé qu'il est l'homme de la situation. Les supporters d'ailleurs ne parlent que de lui. C'est lui qui a permis au club de retrouver les trophées, la Ligue des Champions en 2019, mais aussi la Première Ligue l'année d'après. Et d'ailleurs, eh bien, Liverpool l'a prolongé récemment jusqu'en 2026.
Oui, Jürgen Klopp a d'ailleurs été élu meilleur entraîneur de l'année de Première Ligue. C'est dire s'il est important. Patrick, une autre question.
Oui, Juan. Thiago Alcantara, milieu du terrain de Liverpool, s'est blessé lors de son dernier match, il y a quelques jours. Mm-hmm. Est-ce que Juan, son absence peut-il avoir les conséquences dans les 11 du départ de Jürgen Klopp?
Alors, visiblement, Patrick est convaincu qu'il ne sera pas sur le terrain. C'est pas encore dit, hein.
Alors, ça ne va peut-être pas rassurer Patrick, mais a priori, il devrait être titulaire samedi au Stade de France. En tout cas, Jürgen Klopp l'a assuré dans la semaine en conférence de presse. Il a dit qu'il y a de bonnes chances qu'il joue, alors qu'à la base, il était plutôt pessimiste, puisque Thiago Alcantara s'est blessé face à Wolverhampton samedi en Première Ligue. On aura une première indication aujourd'hui. Sera-t-il à l'entraînement? Et ce serait évidemment une très bonne nouvelle pour Liverpool, puisque le milieu de terrain espagnol est vraiment la pièce maîtresse du jeu des Reds. C'est un peu le régulateur. C'est lui qui imprime le rythme de son équipe. Il avait connu une première saison assez difficile, avec pas mal de blessures. Mais l'ancien joueur du Bayern et du Barça et est devenu vraiment le patron de cette équipe. C'est vraiment lui un joueur exceptionnel qui perd très très peu de ballons. C'est lui le plus habile, on va dire, pour eh bien, contrôler le jeu de son équipe. Il forme une très belle paire avec le Brésilien Fabinho, très précieux donc. Sans lui, c'est vrai que les Reds risqueraient d'être, de maîtriser un peu moins les débats, même si, attention, il y a du beau monde quand même à Liverpool. Si jamais il n'est pas là, Thiago Alcantara, on pense donc à James Milner, Jordan Henderson, mais aussi au Guinéen Naby Keita. C'est d'ailleurs ce qui pourrait faire la différence en finale, c'est ce banc de touche, celui de Liverpool par rapport à celui du Real Madrid, même s'il y a de grands joueurs, mais un peu moins sur le banc.
Patrick, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci Juan Gomez, merci Juan, parce que moi j'ai parlé de ma voiture, j'ai une voiture taxi Toyota.
Oui.
Si le Real perd, mon ami va prendre, il va prendre la voiture.
Ah bon, donc si le Real perd, vous perdez votre voiture. C'est un sacré pari puisque vous êtes chauffeur de taxi, si j'ai bien compris. Patrick, en deux mots, un pronostic donc, pour samedi soir, pour ce match.
3-1, la victoire du Real, 2 buts de Karim Benzema, 1 but de Rodrigo.
Ah bon, bah voilà qui est très précis.
Quand même, voilà. Optimiste quand même.
Cédric Delvera, en tout cas, vous serez sur place au Stade de France, vous verrez si les pronostics de Patrick se confirment. On vous retrouve à partir de 18h40 temps universel, 20h40 heure de Paris pour une soirée spéciale évidemment.
Oui, avec Hugo Mossoni en studio, oui.
À suivre donc. Merci à vous et puis profitez-en, Cédric Delvera, samedi soir. On repasse au standard, 33 9 693 693 70, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
À Farana, en Guinée. Bienvenue sur RFI.
Bienvenue à Farana.
Eh bien, merci de nous accueillir. Abdoulaye, quelles sont vos questions ?
Le gouvernement du Bénin a annoncé le retrait de ses troupes de la MINUSMA pour renforcer sa sécurité sur son propre territoire. Mmh. Sur cela, j'ai trois questions.
Oui.
La première. Quelle a été la réaction de la MINUSMA à cette annonce ?
Alors, on va déjà répondre, si vous le permettez, à cette première question avec Michel Liégeois. Bonjour.
Oui, bonjour.
Professeur de relations internationales à l'Université catholique de Louvain, spécialiste des opérations de maintien de la paix. Au total, cela concerne 390 militaires. Il y a 250 militaires d'infanterie et 140 policiers, donc 390 hommes. Je n'ai pas eu l'impression que la MINUSMA ait réagi à cette décision du président béninois Patrice Talon.
Michel Liégeois.
Oui, non mais Patrice Talon, le président béninois. Ah.
Oui, d'accord. Alors, d'abord, il ne s'agit pas d'un retrait immédiat. Hein. Les soldats béninois de la MINUSMA ne vont pas plier bagage dans les 48 heures. C'est une annonce d'un retrait en deux temps qui ne s'achèvera que dans le courant 2023. Donc, ça n'affecte pas immédiatement la capacité opérationnelle de la MINUSMA. Elle-même a un peu de prise sur les États contributeurs. Donc, c'est plutôt au niveau du secrétariat général qu'on va s'affairer pour trouver un contingent susceptible de prendre la place du contingent béninois. Donc je pense que ce serait inutile et contre-productif d'en faire un incident ou de se scandaliser de cette décision, qui d'ailleurs est justifiée par des considérations de sécurité intérieure qui sont tout à fait respectables. Maintenant, oui. Ce qu'on peut discuter, c'est qu'il y a éventuellement d'autres raisons qui ne sont pas rendues publiques, mais j'imagine que ça fera l'objet des questions suivantes.
Oui, alors effectivement. Alors quand vous dites qu'il ne s'agit pas d'un retrait immédiat, c'est important de le préciser. Dans un premier temps, il y aura 140 policiers qui retourneront au Bénin, mais dans 6 mois, donc ça laisse le temps effectivement à la MINUSMA de trouver d'autres contingents. Et puis les autres soldats, les autres militaires béninois, eux, visiblement, ne partiront pas du Mali avant novembre 2023. Abdoulaye, vous avez d'autres questions ?
Oui. Quel avenir avec ce...
Alors, il y a des micro-coupures. Quel avenir pour la MINUSMA ?
Avec ce retrait.
Avec ce retrait. Quel avenir, Michel Liégeois, pour la mission des Nations Unies ?
La question de l'avenir, c'est toujours évidemment plus difficile. Mais ça nous amène à ce qui est peut-être la raison cachée, en tout cas pas vraiment explicite, c'est que, évidemment, ce retrait intervient dans un contexte extrêmement compliqué au Mali, lié à la détérioration des relations entre le Mali et la France, qui a amené au retrait des troupes françaises du Mali. Or, ces troupes françaises jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les groupes armés et donc indirectement participer à une forme de sécurisation des troupes de la MINUSMA sécurisation d'ailleurs qui n'était pas loin d'être parfaite puisque la MINUSMA est une des opérations de maintien de la paix qui a connu le taux de perte le plus élevé. Et donc on peut penser que certains autres fournisseurs de contingents de la MINUSMA se posent des questions sur les conditions de sécurité dans lesquelles leur contingent pourrait éventuellement rester au Mali. Et on peut supposer que lors du prochain débat au Conseil de sécurité, qui portera sur le renouvellement du mandat,
dans un mois, oui.
Des questions fondamentales vont se poser, en ce compris le maintien à moyen terme de la MINUSMA, parce que sans le soutien français, en particulier le soutien aérien, les contingents sont quand même soumis à des risques très, très importants.
Donc il peut y avoir un effet domino, d'autres pays peuvent donc, on va dire, suivre l'exemple béninois, et puis effectivement, il va y avoir ce débat dans un mois qu'on suivra évidemment sur l'antenne de RFI, sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Les discussions s'annoncent déjà très tendues, on suivra ça. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques instants, Pierre Liégeois, professeur de relations internationales à l'Université catholique de Louvain et spécialiste donc des opérations de maintien de la paix. Bonne journée à Abdoulaye qui nous appelait de Farana. Samou nous rejoint, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu Samou, c'est votre première participation je crois.
Oui bien sûr.
Voilà, tout arrive, soyez le bienvenu, vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Quelles sont vos questions?
Ma question concerne M. Jean-Yves Le Drian.
Oui.
Qui n'a pas été reconduit à la tête de la diplomatie française.
Oui.
Est-ce que sa non-reconduction est-il le signe d'un échec de sa politique africaine pendant 5 ans?
Ah, bonne question. Bah, vous savez quoi, on a demandé à Antoine Glaser d'être avec nous. Il est spécialiste des relations entre l'Afrique et la France. Il est journaliste. Bonjour Antoine Glaser.
Bonjour.
Vous avez publié de nombreux ouvrages. J'en citerai qu'un, Le piège africain de Macron. C'est publié aux éditions Fayard, livre coécrit avec Pascal Hérault. Jean-Yves Le Drian, donc, remplacé par Catherine Colonna à la tête de la diplomatie française. 5 ans aux affaires étrangères, mais avant, il a été ministre de la Défense durant tout le quinquennat de François Hollande. Quand on est ministre de la Défense sous Hollande, il fallait aussi, s'occuper de politique africaine. Pour quelle raison Emmanuel Macron a-t-il décidé de se séparer de Jean-Yves Le Drian? Est-ce que c'est vraiment dû à sa politique africaine?
Non, je ne crois pas. Enfin, vous savez bien qu'on sait qu'en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, la politique étrangère, c'est la décision du président. Comme vous l'avez dit, Jean-Yves Le Drian, il avait fait 5 ans à la Défense, 5 ans à la tête de la diplomatie française. On sait qu'il aurait bien aimé quand même poursuivre un petit peu au Quai d'Orsay, mais en fait, il avait fait son temps. Et c'est certain que ce que lui reproche un certain nombre, finalement, surtout en Afrique, en particulier au Mali, c'est d'être resté plutôt un ministre de la Défense quand il était le chef de la diplomatie française, avec un ton souvent qui a heurté un peu ses interlocuteurs. Mais très franchement, dire que c'est lui qui faisait la politique africaine de la France, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment Emmanuel Macron qu'on a moins entendu du fait de ce qui se passe en Ukraine, qu'on a moins entendu sur la politique africaine, mais c'est quand même les décisions, ça se prend surtout entre lui. Vous avez un conseiller Afrique qui s'appelle Franck Paris à l'Élysée, qui est assez puissant. Je veux dire, c'est de toute cette région, c'est quand même des décisions se prennent aussi, en particulier avec l'armée française, les services de renseignement. Et Jean-Yves Le Drian, c'est pas lui qui fait la politique africaine de la France.
Ça nous a encore une question à vous poser, Antoine Glaser.
Oui. Est-ce qu'ils sont du pas à moitié une nouvelle stratégie diplomatique de la France, notamment en Afrique?
Alors, faut-il s'attendre à une nouvelle stratégie avec Catherine Colonna, Antoine Glaser?
Alors, je pense qu'il y a une double politique africaine qui va se poursuivre et peut-être se renforcer. Tout ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sahel et tout ce qui est ancienne colonie française, c'est vrai qu'on a l'impression que l'influence de l'armée, des services de renseignement, c'est la sécurité qui va primer. Sinon, la politique, ce qu'on appelle la nouvelle politique africaine de Macron avec Catherine Colonna. On voit qu'elle a nommé comme conseillère Afrique, que ce soit au Quai d'Orsay ou même à Matignon, on voit que les gens qui ont été nommés, c'est plutôt des spécialistes de l'Afrique australe et aussi des Nations Unies. Donc c'est le multilatéralisme et surtout tout ce qui est Afrique australe. Emmanuel Macron va sans doute se rendre à l'automne dans des pays comme l'Angola. Et là, c'est le business, ce sont les affaires. Ça veut dire que la France considère toujours maintenant qu'elle en a marre de faire le gendarme de l'Afrique pendant que ses partenaires, ses alliés font le business ailleurs. Donc on voit qu'Afrique de l'Ouest, ça va être poursuivre sans doute la sécurité avec une influence de l'armée, mais le reste du continent, ça va être le business et les affaires. Je pense que Emmanuel Macron devrait aller en République démocratique du Congo aussi à la rentrée. Donc c'est en fait une double politique. On voit bien qu'il y a la politique vis-à-vis du précaré des anciennes colonies et puis la politique du business sur l'ensemble des pays anglophones et lusophones.
Merci de votre analyse, Antoine Glaser, en direct sur RFI. Je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage, Le piège africain de Macron, aux éditions Fayard. Ça nous, rappelez-nous quand vous le souhaitez. Vous voyez, ça s'est bien passé pour une première. Je vous souhaite une bonne journée à Abidjan. On va terminer cette émission avec Marius Trésor. Il est également à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne. Bonjour Marius Trésor.
Bonjour Monsieur Juan, j'ai dit bonjour à votre conseiller Aurélie Bazara Kibangula.
Ah bah oui, Aurélie Bazara qui peut-être nous écoute en ce moment à N'Djamena, c'est notre correspondante sur place. On vous écoute.
Ok, le président sénégalais Macky Sall et le premier ministre allemand Olaf Scholz ont annoncé réfléchir sur la mise en place d'un partenariat pour alimenter l'Europe en gaz liquéfié. Voilà, ma première question est de savoir où se alimente l'Europe.
Oui.
Et de, Marius... Est-ce que le Sénégal pourrait... Ouais, oui, celui-là. Voilà, ok. Le Sénégal a-t-il les moyens, la capacité de subvenir aux besoins énergétiques de l'Europe? Ça, c'est la première question.
Alors, attendez, visiblement, il y a un petit problème de réseau téléphone, mais est-ce que le Sénégal a les moyens de subvenir aux besoins énergétiques de l'Europe? C'est une bonne question, puisque vous le savez, et tous ceux qui nous écoutent le savent, l'Europe, et notamment, et surtout, j'ai envie de dire, l'Allemagne, cherche à diversifier son approvisionnement en gaz. Le Sénégal est-il une alternative au gaz russe? Hervé Ladeau, bonjour. Ah, Hervé Ladeau, êtes-vous là? On me dit que vous êtes là. Alors peut-être vous m'entendez et en revanche, vous ne m'entendez pas. Marius Trésor, on est en direct. On a un petit problème avec la ligne téléphonique d'Hervé Ladeau qui est...
Oui.
Ah, vous êtes là, Hervé Ladeau?
Ah, je vous entends.
Vous m'entendez? Vous êtes sûr? Parce que moi, je vous entends par bribes, hein. Par moment. Bon.
Très bien.
Très bien, bon c'est parfait. Hervé Ladeau, je vous présente en deux mots, vous êtes directeur Afrique de l'Ouest et du Centre pour NRJ, qui est un think tank qui promeut la gouvernance et la transparence des secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Le président Macky Sall a dit qu'il était prêt, en tout cas son pays était prêt, à alimenter le marché européen en gaz naturel liquéfié. Peut-on le croire ?
Alors, commençons par noter que l'Europe envisage de remplacer totalement d'ici 2030 les 140 milliards de mètres cubes de gaz qu'elle importe chaque année de Russie. Le Sénégal produit du gaz depuis une vingtaine d'années, mais de manière très modeste sur le projet Gadiaga, dont la production est exclusivement utilisée jusqu'ici localement pour générer de l'électricité dans une cimenterie. Donc, ce que le Sénégal peut promettre aujourd'hui viendra essentiellement des réserves connues du grand projet GTA qu'il partage avec la Mauritanie, qui entrera en production en fait l'année prochaine, en 2023. Sauf que si l'ensemble des réserves connues de ce projet devait être exporté en Europe, elle ne représenterait en tout et pour tout que 2 années de besoins européens.
Ah oui.
Par conséquent, l'essentiel des promesses sénégalaises porte sur des projets futurs, en particulier les futures phases de GTA, de Sangoma et du grand projet Yaka Teranga et d'autres projets à venir, en fait, qui fourniront certainement d'importantes capacités additionnelles, mais qui n'ont pas encore obtenu de décision finale d'investissement, qui est cette phase importante, vous le savez, où les investisseurs s'engagent de manière irréversible en vue de la production. Donc ces projets futurs quand même sont importants et ils font l'objet d'études complémentaires pour évaluer les réserves et les capacités de production.
D'accord. En tout cas, ce que je comprends bien, c'est qu'à l'heure actuelle, la fourniture de gaz naturel liquéfié vers l'Allemagne serait somme toute très très limitée de la part du Sénégal. L'Allemagne devra donc trouver d'autres partenaires. Merci Hervé Ladeau.